Info Matin, Nicolas Legrand.
Le FLNKS veut renouer le dialogue avec l'État pour ne parler que d'indépendance. À l'issue de son congrès réuni à Saint-Louis, le Front va envoyer un courrier à l'État. De leur côté, l'UPM et le Palika restent en retrait du FLNKS et annoncent qu'ils participeront aux discussions sur l'avenir institutionnel. Retour sur les différents rendez-vous politiques du week-end dès le début du journal. À l'étranger, Donald Trump veut nettoyer Gaza. Le nouveau président des États-Unis propose de déplacer les Palestiniens en Égypte et en Jordanie, puis, je cite, « faire le ménage là-dedans ». En métropole du jamais vu depuis 40 ans en Bretagne, la région fait face à d'importantes crues avec le passage de la tempête Herminia. Le phénomène devrait encore apporter de fortes pluies pendant plusieurs jours. Du tennis, c'est Jannik Sinner qui a inscrit à nouveau son nom au palmarès de l'Open d'Australie. L'Italien numéro 1 mondial a battu Alexander Zverev en 3-7 en finale. Le sport, c'est aussi du football et en Ligue 1, Nantes qui arrache le match nul face à l'Olympique Lyonnais, un but partout. Les joueurs d'Antoine Comboiré qui remontent à la 14e place du classement. La dernière rencontre du jour opposera Nice à l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi tout à l'heure à 6h45. La météo sur le territoire, le temps devrait se couvrir aujourd'hui. On est d'ailleurs en vigilance jaune pour de fortes pluies et des orages, pour des averses orageuses qui se développent cet après-midi et qui persistent par endroits la nuit prochaine, que ce soit sur l'ouest au nord de Boulou-Paris et sur l'est au nord de Pointe-Limier, également sur la pointe nord, Bélep et au Loyauté. Les températures maximales sont stables, elles varient entre 29 et 33 degrés.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique sur le territoire.
Oui, avec tout d'abord le 44e congrès du FLNKS qui s'est achevé hier à la tribu de Saint-Louis au Mont d'Or. Il se déroulait durant tout le week-end, Michael Juneski.
Oui, deux jours de travaux pour définir la stratégie à venir. Parmi les premières conclusions, le FLNKS donne son calendrier en réaffirmant son intention de discuter uniquement de l'accession à la pleine souveraineté. Il enverra prochainement un courrier à l'État pour détailler sa position, mais il dit tout de même souhaiter reprendre le dialogue. Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'Union calédonienne.
Le message du 44e congrès, c'est que le FLNKS n'a pas varié de ses objectifs de faire aboutir la trajectoire d'émancipation et de décolonisation du pays qui nous mène à la pleine souveraineté et à l'indépendance. En tout cas, pour ce qui est des reprises de discussion, le 44e congrès a décidé de renouer le dialogue, mais pas n'importe comment, sur des sujets bien précis. C'est dans ce cadre-là qu'un courrier partira dans les prochains jours, puisqu'on a vu l'invitation du Premier ministre pour signifier les attentes de notre congrès, signifier ce que nous, on veut aller chercher en termes de calendrier, en termes de méthode, en termes de contenu et du format de discussion. Donc c'est des choses préalables qu'on va aller chercher. Il y a une équipe qui va aller là-bas dans le cadre d'une phase préparatoire. Pour nous, cette phase préparatoire, elle prépare la négociation à venir. La négociation va se faire dans un second temps. Pour nous, elle doit obligatoirement se faire ici. Pour nous, on ne discute que de la pleine souveraineté. La question des prisonniers politiques sera à l'intérieur et la question du président du FLNKS aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que le 44e congrès militant, ça fait déjà un moment que ça a dû, avec tout ce qui s'est passé, ils n'ont plus confiance en l'État français. Mais on reste déterminé, on a choisi de repartir sur la voie du dialogue pour toujours aller chercher la même chose.
Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'Union calédonienne. Le 44e congrès du FLNKS qui a donné lieu à l'adoption d'une motion avec de nombreux points inclus. On citera notamment donc la réaffirmation de l'objectif d'aboutir à la pleine souveraineté, mais aussi à la libération de Christian Théin pour qu'il participe lui aussi aux discussions sur l'avenir institutionnel. Une présence indispensable selon le FLNKS. Le Front redit aussi que des discussions devront d'abord être menées en format bilatéral entre le FLNKS et l'État, en vue de préparer les négociations. Le FLNKS qui annonce à nouveau la date du 24 septembre 2025 au plus tard pour la signature d'un accord de Kanaky qui devra tracer la suite du processus dans la mise en place d'une phase de transition pour aboutir à la pleine souveraineté. Il exige également que l'ensemble des élus et militants traitent l'urgence sociale qui touche les populations les plus vulnérables. Voilà pour quelques-uns des points présentés dans cette motion adoptée donc à l'issue de ce 44e congrès du FLNKS. Notez enfin qu'une minute de silence a été respectée en ouverture du congrès à l'annonce de la disparition de Nalaïn Uregei, frère de l'ancien leader du parti travailliste Louis Kotra Uregei et ancien militant indépendantiste décédé samedi matin.
Et en marge de ce congrès du FLNKS, rappelons que des représentants des mouvements indépendantistes de plusieurs territoires ultramarins et de Corse se sont réunis jeudi et vendredi dernier à Nouméa pour le congrès constitutif du Front international de décolonisation. Un congrès relayé sur ses réseaux sociaux par le Baku Initiative Group, une organisation promue par l'État azerbaïdjanais. Dans une interview accordée au journal Ouest France, le ministre des Outre-mer Manuel Valls dénonce les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a écrit sur le réseau social X que ces tentatives de déstabilisation menées par l'Azerbaïdjan dans nos territoires d'outre-mer sont inacceptables et doivent cesser immédiatement. Fin de citation. Alors je le disais, ce congrès du FLNKS se déroulait encore une fois sans deux de ses composantes historiques, le PALIKA et l'UPM. Et revenons tout d'abord, Michael Juneski, sur le PALIKA qui organisait de son côté son assemblée générale à Wailou, c'était samedi.
La suite des discussions quant à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie était également à l'ordre du jour. Les représentants du PALIKA expliquent avoir eu l'occasion d'échanger avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. On écoute Jean-Pierre Jaoué, l'un des porte-parole du PALIKA.
On lui a dit que nous étions favorables, nous avons demandé au ministre que les premières discussions puissent se tenir ici en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons pu évoquer avec lui les sujets qui peuvent être évoqués et la méthode. On a dit au ministre que c'est important pour nous. Il y a une chose que l'on retient également de l'entretien que nous avons eu avec le ministre. Il a dit qu'à un moment donné, s'il le faut, et là c'est la première fois qu'on entend ces mots de la bouche d'un ministre, il faudra qu'à un moment donné, l'État puisse mettre une proposition sur la table. Et ça, ça nous paraît important. C'est bien aussi que l'État puisse à un moment donné faire une proposition qui sera ensuite à discuter entre nous.
Autre sujet abordé, l'avenir du PS2R. Le PALIKA dit attendre de connaître la stratégie du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de ce plan de reconstruction. Enfin, en ce qui concerne le FLNKS, le PALIKA reste sur sa position et se place toujours en retrait du front et des décisions prises par les nouvelles instances du FLNKS.
Et l'UPM tenait de son côté son comité central à Dimbéa. Là encore, le parti a pris la décision d'aller aux discussions sur l'avenir institutionnel à Paris, que ce soit à l'invitation du Premier ministre, et souhaite également reprendre le dialogue. Victor Tutugoro, le président de l'UPM.
Nous avons donc accepté, nous, UPM, de s'inscrire dans ce déplacement qui va se faire à Paris pour aller donc évoquer avec le Premier ministre, le sous-ministre de l'Outre-mer, M. Valls, évoquer la reprise des discussions, notamment autour de la méthode, du format, du calendrier, des objectifs que l'on se donne. Encore une fois, nous, dans l'esprit de la souveraineté partagée, on a redit que les conditions d'un retour au FLNKS ne sont pas réunies. On prépare les travaux de la négociation politique dans de bonnes conditions.
Le président de l'UPM, Victor Tutugoro, à l'issue de ce comité central qui se tenait donc à Dimbéa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La France doit-elle prendre des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 6h39 et après la pause, la suite de l'actualité sur le territoire avec notamment ces drames sur la route.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout. Chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite de l'actualité sur le territoire avec ce mois de janvier noir sur nos routes. Samedi, sur la RT1, aux alentours de 15h entre Bouraille et Moindou, un automobiliste roulant en direction de Nouméa se serait déporté sur la file de gauche et percuté frontalement un véhicule arrivant en face. Le conducteur, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, unique passager de la voiture ayant provoqué l'accident, est malheureusement décédé. Et puis on a appris également hier que le motard de 37 ans qui avait percuté une voiture de la police municipale vendredi matin sur l'avenue de la Victoire est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Depuis le 1er janvier, 4 personnes sont donc mortes sur les routes calédoniennes. L'actualité du week-end marquée également par ce succès pour la quête annuelle de l'Ordre de Malte. Les bénévoles étaient mobilisés tout le week-end devant les supermarchés et les églises, vêtus d'un dossard rouge et blanc, arborant une croix de Saint-Jean. Et ils ont pu récolter des dons, Michael Juneski, pour venir en aide aux malades de la lèpre.
Oui, un week-end consacré à l'aide aux personnes touchées par cette maladie. Cette année, l'association s'attendait à recevoir moins de soutien, mais Yann Carpentier, le président de l'association de l'Ordre de Malte, était surpris de voir que les Calédoniens restaient sensibles à cette cause.
En fait, ça s'est vraiment mieux passé que ce que nous craignions. Bon, compte tenu de la situation, on ne s'attendait pas au pire, mais on s'attendait à un très très mauvais résultat, ce qui aurait été un petit peu normal. Mais vraiment, tous les messages ont été très positifs. Continuez, on est avec vous, etc. C'est véritablement très très généreux malgré la situation de chacun. Donc ça nous touche. Très honnêtement, les Calédoniens nous prouvent à chaque fois qu'ils sont bienveillants, généreux et compréhensifs. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont bien pris en compte ce qu'on cherchait à faire. Et en fait, ils vont dans notre sens et ça, ça nous touche énormément. Et donc, je vais profiter de votre radio pour tous les remercier parce que globalement, ça s'est bien passé. Et au-delà de vos auditeurs et de tous ceux qui nous ont aidés financièrement, remercier votre station RRB qui est notre partenaire depuis des années et que sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose. En tout cas, merci beaucoup.
Et les fonds récoltés, dont le montant total sera connu dans les prochains jours, seront reversés à l'Ordre de Malte France, mais aussi utilisés en Nouvelle-Calédonie pour continuer le travail de sensibilisation de l'Ordre de Malte.
Radio Rythme Bleu, 6h42.
Ouvrons à présent l'agenda de la semaine qui commence. Une semaine très particulière, Michael, pour la communauté sino-vietnamienne du territoire.
Effectivement, puisque mercredi, le 29 janvier, marquera pour ces communautés le début d'une nouvelle année. Le nouvel an chinois, ou fête du tête pour les Vietnamiens, sera célébré comme il se doit demain soir lors d'une grande soirée à l'amicale vietnamienne à Magenta. Pétards, danses, de la licorne marqueront l'entrée dans l'année du serpent de bois qui est, nous dit-on, symbole de sagesse, de stratégie et de renouveau. Nous évoquerons ce nouvel an sino-vietnamien, cette fête du tête, ce soir dans notre journal de 17h45. Nous recevrons Michel Fong, le président de la communauté chinoise de Nouvelle-Calédonie, et Patrick Guillon, le président de l'amicale vietnamienne. Dans le reste de l'actualité, les élus de la province Nord se retrouveront mercredi à Koné pour une séance publique avec à l'ordre du jour notamment le débat d'orientation budgétaire de la collectivité. Vendredi, l'Agence calédonienne de l'énergie et la Société de transport du Sud présenteront sur le parc de la Moselle, le premier bus électrique de Nouvelle-Calédonie. À noter également dans vos agendas la nuit de la lecture. Ce sera jeudi de 18h à 20h. Cet événement national est relayé en Calédonie par la bibliothèque Bernheim qui vous donne rendez-vous à l'immeuble Le Central rue Anatole France. Vendredi sera le dernier jour de l'opération Un été dans nos quartiers organisée par la ville de Nouméa. Enfin, dimanche prochain, ce sera le retour du vide-grenier de la place des Cocotiers à Nouméa.
Et puis la semaine pourrait être marquée également par la réouverture totale de la RP1 à Saint-Louis. C'est en tout cas l'objectif affiché par le Haut-Commissariat pour samedi prochain, le 1er février. Je rappelle que depuis ce week-end, les horaires des verrous ont évolué. La circulation est désormais ouverte de 5h à 22h. Et puis enfin, un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Nous parlerons des risques requins tout à l'heure à 7h30. C'est le docteur Claude Maillot, médecin spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale, qui sera en effet notre invité du matin. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30. Il est 6h passé de 44 minutes. L'actualité à l'étranger juste après la publicité avec Donald Trump qui veut faire le ménage à Gaza. C'est ce que le nouveau président des États-Unis déclare en tout cas.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits, des viandes savoureuses sans conservateurs, un goût authentique et naturel. L'excellence au cœur de votre assiette, Boucherie Bobby, 56 rue Gerbolino à Magenta, 28 28 33.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin avec actualité dans le monde et en métropole, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec tout d'abord l'actualité à l'étranger et la trêve au Proche-Orient, toujours aussi fragile. Mais ce matin, il est confirmé qu'une otage civile israélienne devra être libérée avant le prochain échange. Frédéric Simon pour Europe 1.
En Israël, on confirme que des progrès ont été effectués dans les pourparlers pour la libération d'Arbel Yehoud. Le 7 octobre 2023, cette jeune femme de 29 ans avait été capturée par les terroristes du Hamas dans le kibbutz de Nir Oz, à proximité de la bande de Gaza. Elle considérée par Israël comme la dernière femme civile encore en détention. Or, le Hamas était engagé à libérer les civils avant les soldats. La libération des hommes âgés de plus de 50 ans ou blessés devant suivre. En réaction à cette violation des termes de l'accord par l'organisation islamiste, Israël refuse de permettre le retour de plusieurs centaines de milliers de civils palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. Une situation contraire à l'intérêt du Hamas et aussi à celui du djihad islamique, une autre organisation terroriste. C'est elle qui détient Arbel Yehoud. Elle affirme avoir transmis à Israël des signes de vie de l'otage. Aucun accord formel n'a été conclu, mais ce ne serait plus qu'une question d'heure. Une libération d'Arbel Yehoud dans les jours qui viennent est désormais probable.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. De son côté, je le disais, Donald Trump veut faire le ménage dans la bande de Gaza. Il veut envoyer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Je cite, « On parle 1,5 million de personnes et on fait tout simplement le ménage là-dedans ». Fin de citation. Le nouveau président des États-Unis qui confirme qu'il va livrer également des bombes de plus de 900 kilos à Israël. Livraison qui avait été suspendue par l'administration Biden. Côté réaction, le ministre jordanien des Affaires étrangères a rejeté l'idée d'accueillir des Palestiniens. Le Hamas et son allié, le djihad islamique, dans la bande de Gaza, ont vivement critiqué ses propos. Je cite, « Ce serait nier l'existence des Palestiniens et encourager les crimes de guerre à leur encontre ». Cette semaine sera marquée également par les 80 ans de la libération du camp de concentration nazi d'Auschwitz par les soldats de l'Armée rouge. Emmanuel Macron participera à la commémoration demain. En revanche, il y aura des absents. Trois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump, le président des États-Unis. Jacques Serret pour Europe 1.
Ils sont trois grands absents pour ces commémorations. Benjamin Netanyahou, tout d'abord, le Premier ministre israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a préféré décliner l'invitation. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, justifie ce choix.
Le Premier ministre israélien est un peu occupé en s'occupant de la libération de nos otages, de la guerre, et de faire en sorte que les choses commencent à rentrer dans une certaine normalité en Israël. Alors, malheureusement, il n'aurait pas pu participer.
La Pologne avait pourtant pris les devants en assurant à Benjamin Netanyahou un accès libre et sûr. Il sera finalement représenté par le ministre de l'Éducation, Yoav Kish. Autre grand absent, Vladimir Poutine. Si l'armée rouge a découvert ce camp de la mort il y a 80 ans, le président russe n'y est pas le bienvenu aujourd'hui. Compte tenu, entre autres, de la guerre en Ukraine, il n'a pas été invité. Et en ce qui le concerne, la Pologne ne se serait pas privée de faire appliquer le mandat d'arrêt international qui le vise. Enfin, Donald Trump, lui non plus, ne sera pas là. Le nouveau président des États-Unis sera représenté par son envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff.
L'actualité en métropole à présent est le 14e arrondissement de Paris, toujours sous le choc. Elias, un adolescent de 14 ans, a été tué au couteau par deux jeunes parce qu'il avait refusé de leur donner son téléphone portable. Écoutez quelques riverains qui se sont arrêtés sur les lieux du drame.
J'ai déposé des fleurs parce que je pense aux parents de ce jeune garçon de 14 ans. Pour un téléphone portable, on peut se faire tuer. De quoi on parle en fait? Moi j'habite juste derrière, je suis effarée.
Très choqué, j'en suis venu à en pleurer dès que j'ai appris la folie meurtrière qu'il y a eu à travers ces adolescents. D'autant plus que je connaissais la maman concernée. Donc je suis venu me recueillir sur le lieu du drame.
Je sais pas où va cette jeunesse. Hein. C'est une jeunesse qui va à la dérive et je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des réseaux? Est-ce que ça vient de l'éducation? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est hyper triste.
Et du côté de l'enquête, deux mineurs sont en garde à vue et l'un aurait reconnu avoir donné le coup de couteau mortel. L'arme du crime aurait d'ailleurs été retrouvée dissimulée chez l'un d'entre eux. D'importantes inondations en Bretagne, à Rennes, c'est même tout simplement du jamais vu depuis 1981. Les pluies devraient continuer de s'abattre sur la région. Demain, les précipitations pourraient être équivalentes à 15 jours de pluie en seulement 24 heures. Des crues qui devraient donc augmenter encore davantage. Écoutez Jean-Christophe Boursin, il est le secrétaire général pour les affaires régionales.
Par rapport au niveau que l'on observe, on est sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis une quarantaine d'années. Ça s'explique par des rivières déjà hautes, des sols bien gorgés d'eau. Et puis on est en milieu urbain et lorsqu'il pleut et que n'y a pas beaucoup de place pour évacuer, ça monte beaucoup plus vite qu'en plaine ou en milieu rural. Donc on est sur un épisode important sur l'agglomération rennaise. Comme l'eau coule de Rennes vers Redon, lorsque toute l'eau de Rennes va s'évacuer, dans les prochaines heures ou les prochains jours, vraisemblablement, le secteur de Redon passera aussi en vigilance orange. Et donc on va avoir tout le département en vigilance orange.
Et 11 départements sont en vigilance orange avec le passage de la tempête Herminia, dont 5 pour les inondations. L'Ille-et-Vilaine, le Calvados, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire. J'ajoute aussi des risques de submersion côtière sur le Morbihan et le Finistère. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une pause publicitaire dans ce journal, la dernière d'ailleurs avant le sport. Ensuite, on verra notamment que Jannick Sinner s'est imposé à l'Open d'Australie hier soir.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Jusqu'au vendredi 7 février, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Profitez d'un séjour reposant et sportif à l'hôtel de Poé. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Tirage au sort vendredi 7 février à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une ce matin du tennis, c'est Jannick Sinner qui a décroché hier soir la couronne à l'Open d'Australie, Michael Juneski.
Et oui, l'Italien qui s'est donc imposé en finale face à l'Allemand Alexander Zverev en 3-7. Le score final 6-3, 7-6, 6-3. Il a donc surclassé son adversaire du jour pour aller chercher à 23 ans son troisième sacre en Grand Chelem. Et il fait donc au passage le doublé à Melbourne. Yannick Sinner, au vu de ses performances, qui s'est montré flatté d'être désormais comparé par Zverev à Novak Djokovic. On écoute la réaction du vainqueur de cet Open d'Australie.
C'est un compliment incroyable venant de Zverev. Tout le monde est différent d'un côté. Évidemment, j'ai quelques similarités avec le style de Novak. Je continue de penser que lorsque Novak joue à son meilleur niveau, c'est très très dur de le battre. Sur le plan du style de jeu, je me référerai à lui en essayant de comprendre ce qu'il faisait, comment il gérait les moments avec beaucoup de pression et les moments importants. Je continue de croire que nous sommes différents en tant que joueurs parce que tout le monde est différent, mais c'est certain que nous avons des similarités.
Voilà la victoire de Yannick Sinner, l'Italien numéro 1 mondial, qui met donc un terme à cette quinzaine à Melbourne, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Je rappelle au passage que chez les dames, Madison Keys avait créé la surprise samedi soir. L'Américaine s'était imposée sur la Bélarusse Arina Sabalenka, double tenante du titre et première joueuse à l'ATP. Victoire de Madison Keys en 3-7.
On reste en Australie avec du cyclisme et l'Équatorien Jonathan Narváez de la formation Emirates, qui a inscrit son nom au palmarès du Tour Down Under. Retour sur la sixième et dernière étape qui a été remportée hier après-midi par l'Australien Sam Welsford de la formation Red Bull Bora. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Parti très tôt, trois coureurs ont compté jusqu'à 50 secondes d'avance sur le peloton, mais leur échappée a échoué pratiquement en vue de l'arrivée. Celle-ci a été remportée au sprint par le vainqueur des deux premières étapes, l'Australien Sam Welsford de l'équipe Red Bull Bora, devant le Français Brian Coquart de l'équipe Cofidis et l'Allemand Phil Baus de l'équipe Bahrain Victorious. Le classement général demeure toutefois inchangé. L'Équatorien Jonathan Narváez de l'équipe Emirates inscrit donc son nom au palmarès de l'épreuve devant l'Espagnol Javier Oliver de l'équipe Movistar à 9 secondes et le néo-zélandais Finn Fisher-Black de l'équipe Red Bull Bora à 12 secondes. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
La suite de l'actualité sportive avec du rugby à 7 et l'équipe de France féminine qui termine sur le podium de l'étape australienne du circuit mondial, Michael.
Une troisième place décrochée hier soir à Perth après avoir battu les Canadiennes dans la petite finale sur le score de 14-7. C'est donc le deuxième podium d'affilée pour les Bleus après le bronze remporté en Afrique du Sud. Elles avaient tout de même subi la loi des Néo-Zélandaises en demi-finale. Une défaite de l'équipe de France 36-7. Notez que chez les messieurs, les tricolores se sont pour leur part inclinés dans le match pour la cinquième place face aux Fidjiens. Une défaite 17-5 après avoir déjà perdu en quart de finale face aux Australiens sur leur terre. Une défaite cette fois 24-12.
Rugby toujours mais à 15 ce coup-ci avec la fin ce matin de la 15e journée du top 14.
La dernière affiche verra une opposition entre le RC Toulon et le Stade Rochelais. Les Toulonnais sont pour le moment 3e du championnat de France. Ils espèrent ne pas être distancés par le duo de tête Union Bordeaux-Bègles-Toulouse. Et La Rochelle est pour sa part 6e avec l'objectif de rester au contact des principaux prétendants aux phases finales. Le coup d'envoi de ce choc sera donné à 7h05 tout à l'heure pour nous.
Du football avec la 19e journée de Ligue 1.
Ouais, et Nantes qui accroche l'Olympique Lyonnais et qui remonte ainsi à la 14e place de la Ligue 1. Les deux formations se sont en effet quittées sur un score de parité à un but partout. Les joueurs d'Antoine Comboiré peuvent en réalité se satisfaire d'avoir évité de peu la défaite contre le 6e du classement. En effet, les Canaries nantais sont parvenus à égaliser à la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. Encore des résultats aujourd'hui. Brest qui a battu Le Havre sur le score de 1-0. Montpellier qui l'a emporté sur Toulouse sur le score de 2-1. Et Lens qui s'est imposé face à Angers sur le score de 1-0. Le dernier match au programme, un derby. Nice qui fait face à l'Olympique de Marseille. Après 5 minutes de jeu, le score était toujours de 0-0 entre les deux formations.
Et enfin, les sports mécanique et Sébastien Ogier qui gagne une nouvelle fois le rallye de Monte-Carlo.
Le vétéran qui brille toujours sur les routes de Monte-Carlo avec ce 10e succès dans cette épreuve, dont 9 en WRC. Le pilote français a donc devancé son coéquipier chez Toyota, le gallois Elfyn Evans, ainsi qu'un autre tricolore, Adrien Fourmeau, qui complète le podium pour ses débuts avec Hyundai. Sébastien Ogier, l'ancien septuple champion du monde, est désormais engagé seulement sur quelques épreuves à la carte chaque saison depuis l'annonce de sa retraite, prend donc encore une fois la tête du classement général du championnat du monde. Et puis, très rapidement, un petit mot de ski alpin, si vous me le permettez, avec Clément Noël qui a remporté le slalom de Kitzbühel en Autriche, l'une des plus prestigieuses étapes du circuit. Il est devenu au passage le slalomeur français le plus titré en Coupe du Monde.
Et notez que ce midi, dans le Mag des Sports, nous évoquerons déjà le premier rendez-vous de l'année organisé par Pro Events. Le Blue Batray, alors il y a un peu de temps puisqu'il est prévu le 23 février à Dumbéa au départ du Yala Ranch, mais les inscriptions sont ouvertes et c'est pourquoi nous en parlerons avec Julie Prunel, l'une des responsables de l'organisation, qui sera notre invitée. Et puis vous retrouverez également tous les résultats sportifs du week-end.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Un temps assez instable, mon cher Thierry, pour aujourd'hui.
Oui, nous sommes en vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages. Alors, c'est des averses orageuses qui se développeront cet après-midi et persisteront par endroits la nuit prochaine sur l'ouest, au nord de Boulot-Paris et sur l'est, au nord de Pointe-d'Imier. Également sur la pointe nord, Bélep et Loyauté. Ce matin, sur l'ouest, le temps sera sec, mais des nuages élevés masqueront parfois le soleil. Ailleurs, le ciel sera changeant, éclairci, et nuages porteurs d'averses alterneront. Le nord-est, le ciel sera plus nuageux, donc sur le nord-est, avec des averses plus nombreuses. L'Alizée donc pour ce matin orientée est à sud-est autour des 10 nœuds, localement autour des 15 nœuds sur le sud-ouest et 10 à 15 nœuds sur la pointe nord. Cet après-midi, les développements nuageux provoqueront des averses parfois orageuses aux abords du relief, puis s'étaleront vers les côtes en donnant quelques bonnes averses, en particulier sur le nord. Un coup de tonnerre ne sera pas à exclure. L'Alizée au sud-est pour cet après-midi entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le sud-ouest et les températures, elles comprises entre 29 et 33 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.